Conférence privée du noviciat par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 29 octobre 1992.
Quelques questions. Pouvez-vous revenir sur les modalités de l'obéissance dont vous avez déjà parlé? Le citoyen, le serviteur, l'enfant, le disciple, l'ami, l'époux, l'épouse, le fils bien-aimé. Quelle différence entre l'obéissance de l'épouse et celle du fils bien-aimé? L'obéissance de l'épouse est l'obéissance à l'époux. L'obéissance du fils bien-aimé, c'est l'obéissance au père. Ah, tout l'évangile de Saint Jean nous montre cela, avec l'Apocalypse du reste. L'Apocalypse montre les épousailles de l'époux, l'agneau, et de l'épouse, l'église. C'est montré très nettement. Et Saint Jean nous montre que Jésus ne cesse d'obéir au Père. Cette obéissance dont je vous parlais hier, qui est l'obéissance au bon plaisir du Père. Petitesse de Jésus à la croix montre cette obéissance filiale qui prend ce caractère tout à fait particulier à la croix. J'allais presque dire de devancer les désirs du Père. Et je crois que c'est là le caractère très particulier de l'obéissance du Fils, de l'enfant et du Fils bien-aimé. C'est que il veut entrer pleinement et totalement dans le bon plaisir du Père. Il y a quelque chose d'analogue dans l'obéissance de l'époux et de l'épouse, du moins de l'épouse à l'égard de l'époux. Alors, quel est l'ordre voulu par Dieu? Je crois que selon l'ordre voulu par Dieu, c'est que Jésus épouse l'humanité pour que l'humanité entre dans le mystère de la filiation à l'égard du Père. C'est, je crois, cela qui est révélé à travers l'Apocalypse et à travers l'Évangile de Saint Jean. Et c'est ça qui nous montre le caractère ultime de l'obéissance. Si vous devenez comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est dit nettement. Vous voyez ? Alors, c'est toujours cette relation avec le Christ, l'humanité sainte du Christ, et donc avec le Verbe, et la relation du Verbe à l'égard du Père. L'unité avec Jésus, c'est pour vivre l'unité avec le Père. Le Verbe est dans le sein du In sino patris, dans le prologue. Et si nous sommes un avec Jésus, comme l'épouse est une avec l'époux, et fait la même œuvre que l'époux, c'est pour pouvoir vivre ce mystère de filiation d'une manière ultime et dernière. Et on touche là à quelque chose qui, je crois, est très présent dans l'évangile de Saint Jean et très présent dans l'Apocalypse. Alors, quelle différence entre l'obéissance de l'épouse et l'obéissance du fils bien-aimé? L'obéissance de l'épouse, c'est à l'intérieur de ce choix mutuel et dans une œuvre commune. L'obéissance à l'égard du Père, bien-aimé, c'est dépasser l'œuvre dans le cri de soif. C'est la puissance de l'amour éternel du Fils à l'égard du Père, sous le souffle de l'Esprit. Peut-on dire que la puissance du Fils bien-aimé est celle qui nous lie la sagesse de la croix. C'est celle qui nous lie à la sagesse de la croix, en comprenant que la sagesse de la croix manifeste cet amour éternel du Père pour le Fils. Et donc vivre de cet amour éternel du Père pour le Fils. Comment vit-on de ces sept modalités d'obéissance en tant que frère et sœur de Saint Jean? C'est comprendre que l'Esprit Saint nous lie à Jésus dans ce choix tout à fait particulier de l'épouse à l'égard de l'époux. Nos vœux n'ont pas d'autre sens que cela. Nous lier comme épouse à Jésus, époux, pour faire la même œuvre que lui, glorifier le Père et sauver les hommes. L'époux et l'épouse font la même œuvre, demandée par le Père, mais au-delà de l'œuvre, il y a le bon plaisir de l'amour. C'est vivre avec Jésus, cette intimité avec le Père. C'est pour ça que saint Thomas nous dit que dire Abba Pater avec Jésus, c'est ce qu'il y a de plus profond dans toute expérience mystique. C'est saint Thomas qui dit ça. N'hésiterez pas à dire vos difficultés, hein, parce que je crois que c'est très important pour nous. Et au fond, c'est pour nous, frères et sœurs de Saint Jean, c'est d'entrer à fond dans ce secret de Saint Jean, que vous ne voyez pas dans les synoptiques de la même manière. Vous voyez, il ne faut surtout pas séparer, il faut distinguer. Il faut distinguer, mais il ne faut pas séparer. Il y a la puissance de l'époux et de l'épouse, il y a la puissance du Père. Non. Le mystère de Dieu, de la très sainte Trinité, est ultime. C'est sûr. Ça, on ne peut pas nier ça. C'est ce qu'est ultime. Ce mystère, ce n'est plus un mystère d'obéissance. C'est un mystère d'amour. Mais Jésus, dans sa nature humaine, est à la fois le Fils bien-aimé, il est le Fils bien-aimé, et il est celui qui a assumé la nature humaine pour accomplir l'œuvre que le Père lui donne d'accomplir. Il accomplit cette œuvre plénière avec Marie à la croix, mystère de la compassion. Et le mystère de Marie, c'est le mystère de l'Église. Toute l'Église est engagée dans le mystère de la croix. La mission de l'Église est la même que celle de Jésus. Pourquoi y a-t-il le cri de soif après que Jésus ait donné sa mère, alors que Jésus accomplit parfaitement et totalement la mission demandée dans l'obéissance? C'est pour nous faire comprendre comment la croix glorieuse s'achève dans cette intimité du Fils avec le bon plaisir du Père, qui est au-delà de l'obéissance. Et il s'achève dans le cœur de Jésus, dans le cœur d'homme du Christ. Saint Jean par rapport à l'obéissance, quand il demande dans sa première épître de garder les commandements de Jésus. Oui, alors ça, c'est, je dirais, c'est l'obéissance du serviteur. Plus on est épouse et ami, plus on doit être serviteur. Et plus on est serviteur, plus on est ami. Vous voyez, je crois qu'on peut faire cette hiérarchie en comprenant bien. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie. C'est une hiérarchie dans l'unité. Nous restons éternellement des serviteurs. Comme créature. Le propre de la créature, c'est de servir Dieu. Et le commandement suprême par rapport à la créature, c'est l'adoration. Nous sommes des enfants de Dieu. Par la grâce. Nous sommes des enfants de Dieu par la grâce. Et ces enfants de Dieu sont à la fois épouse de Jésus et recevant en même temps tout Jésus et des fils bien-aimés du Père. C'est le mystère de la grâce qui nous fait enfants de Dieu. Mais dans la grâce, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a la mission que Jésus a, épouse de Jésus, coopérant à sa mission. Glorifier le Père, sauver les hommes. De Dieu qu'on est épouse du Christ. À la mission de Jésus. Et l'accomplissement de cette mission permet le retour vers le Père. Vado ad patrem. Nous sommes face au Père. cette filiation. Sa père avec Jésus dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire avec le Père, spirant l'Esprit Saint. Alors on pourrait dire ça encore, vous voyez. Si on voulait ajouter l'unité dans l'Esprit Saint, l'inspiration. L'inspiration du Père et du Fils. Seul le Fils comme Fils, c'est-à-dire seul le Fils, étant un avec le Père, spire l'Esprit Saint. L'affirmation du Filioque. C'est de pauvres mots, hein, nos pauvres mots éclatent quand on dit ça, parce que c'est très vrai, c'est très inadéquat, mais la grâce nous fait vivre le mystère de la très sainte Trinité. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est ça la divinisation. Mais nous restons toujours des petites créatures qui adorent dans l'amour. Nous restons toujours des épouses du cœur de Jésus. Et ce qu'il y a de plus grand pour Jésus, c'est de faire vivre son amour pour le Père, le bon plaisir à l'égard du Père. Vous voyez, l'obéissance n'est jamais ce qu'il y a d'ultime. Jamais. Ce qu'il y a d'ultime, c'est l'amour. Puisque l'obéissance n'est pas trinitaire, vous voyez. L'amour est trinitaire, mais pas l'obéissance. Mais l'obéissance est le fruit de l'amour. Ce qui provient de l'amour et ce qui nous permet d'aimer en toute vérité. Si on refusait l'obéissance, on ne pourrait pas aimer en toute vérité. Ça, c'est sûr. Pour aimer en toute vérité, il faut aller le plus loin possible dans l'obéissance. Supérieur. crasse pour ça. Je parle pas du religieux, tu vois. Pas de fumain, c'est différent. Et si on est convaincu, en obéissant, que le supérieur est en train de faire une gaffe, que c'est moche ce qu'il fait, il aurait mieux fait de faire autre chose. On obéit et on lui dit après. Alors si l'obéissance demeure, on se fait dans l'attitude d'obéir et puis on vient lui dire, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne faudrait pas mieux faire autre chose? Tout à fait normal, ça. Mais vous le faites dans une mentalité d'obéissance. Vous avez déjà obéi. Il n'y a que celui qui obéit qui peut dire au supérieur, peut-être vous vous trompez, il ne faut pas le dire d'avance. C'est là où on voit, je crois, l'obéissance de l'enfant. Vous voyez, si pour adorer, il faut jeter sa couronne, vous croyez que pour obéir, il ne faut pas jeter sa couronne. C'est sa compétence, jeter sa couronne. Quand on obéit à des supérieurs qui sont plus jeunes que nous, nécessairement, d'un point de vue humain, ils sont moins compétents. Dans beaucoup de domaines. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. On ne dit pas obéissez toujours à des supérieurs qui sont plus âgés que vous. Ça n'a rien à voir. On obéit parce qu'ils sont mandatés par le Christ. Ils sont mandatés en tant qu'ayant l'autorité, pas la compétence. Dieu, autant que possible, choisit des hommes compétents, mais pas toujours. Une obéissance plus divine, plus héroïque. C'est évidemment plus difficile d'obéir à quelqu'un qu'on a l'impression d'être moins compétent que nous, que d'obéir à quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que nous. C'est plus facile. L'aspect humain s'y retrouve plus. D'aller de l'autre côté, l'aspect divin, on prend de façon fameuse. Pourquoi Dieu exige-t-il de moi l'obéissance à un autre que lui? Ah, très bien ça. C'est la charité fraternelle. Dieu a voulu une église avec une hiérarchie visible. Et cette hiérarchie visible, c'est pour qu'il y ait les sacrements. Dieu a voulu nous sanctifier par des signes visibles, sensibles, instruments de grâce. Et pour que la hiérarchie visible existe, puisqu'elle est commandée par l'Eucharistie, Jésus a voulu qu'il y ait des prêtres. Il aurait pu faire autrement. Et il nous le montre. La preuve, c'est que dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas les Lévites qui jouent un rôle auprès de la manne. Les Lévites vont mendier la manne comme les autres. Donc Jésus nous montre, tu vois, le Dieu nous montre qu'il n'a pas besoin de la hiérarchie. Même s'il donne l'Eucharistie, il aurait pu. C'est du reste, certains soutiennent ça chez les protestants. Ceux qui n'acceptent pas le caractère objectif de la consécration et du rôle du sacerdoce du prêtre. Ils disent que c'est la foi commune de l'Assemblée. Donc c'est comme dans l'Ancien Testament. Puisque vous êtes tous réunis de la part du Christ, de Christ au milieu de vous, et c'est le Christ qui parle par la communauté. Lui-même est là présent. Donc vous voyez, Dieu aurait pu très bien faire autrement. Il a voulu que pour l'Eucharistie, il y ait des prêtres. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le bon plaisir du Christ. Et ceci pour augmenter notre foi. Parce que c'est toujours plus difficile de passer par des intermédiaires visibles que s'adresser directement à Jésus. Mais d'autre part, il y a un avantage énorme, c'est que on sais que l'absolution m'est donnée. Je sais que la consécration est présente. Tandis qu'autrement, je pourrais toujours dire, mais on n'a pas assez prié. Donc, il n'est peut-être pas descendu. Il n'a peut-être pas eu de consécration. Parce qu'on n'a pas assez prié. Donc, on resterait dans un certain doute. Il est sûr que le point de vue de la consécration du prêtre pour l'Eucharistie et pour la confession donne une objectivité plus grande et une certitude plus grande. Or, il s'agit des sacrements où on a absolument besoin des certitudes. Mais ça, c'est, je crois, très important de se le rappeler. Ça, c'est très fort, parce que c'est l'économie divine de la nouvelle alliance. C'est la surabondance. Ne cherchez pas d'autres raisons, hein, c'est la surabondance. Dieu veut surabonder dans l'ordre de l'amour. Alors il nous demande une pauvreté plus grande. Acceptez de passer par de pauvres instruments qui sont pécheurs comme nous et qui se confessent comme nous. C'est merveilleux. Quel rapport y a-t-il entre l'obéissance et la petitesse? L'obéissance lutte en premier lieu contre l'orgueil. Ça, tous les pères de l'Église le disent. Ils voient l'obéissance de Marie et l'orgueil d'Ève. Qui portent leur tête pour Ouais, c'est une iconographie merveilleuse. Voir ce que c'est que l'obéissance. On vous coupe la tête et vous dit manger. Et donc vous portez votre tête, n'ayant plus qu'une seule tête, celle de Jésus. C'est Jésus qui prend la place de votre tête, puisque vous acceptez d'obéir comme lui. Alors ça, je crois que c'est très fort de comprendre que grâce à l'obéissance, par les sacrements, on entre dans la petitesse évangélique. On entre dans une exigence de pauvreté très unique, très forte, très divine. Y a-t-il des questions là-dessus? Si vous n'osez pas les dire tout haut, vous pouvez les marquer toujours sur un papier. Je vous dis ce que je pense. Mais il ne faut pas durcir. Je crois qu'obéissance, au point de vue de l'obéissance, c'est net. Alors vous allez me dire que dans la très sainte Trinité, il n'y a plus d'obéissance. L'obéissance. Et le Christ obéit comme serviteur de Dieu. Il obéit selon toutes les dimensions propres. Il est à la fois citoyen du ciel, serviteur, enfant, disciple, ami, époux, fils bien-aimé. Ça, c'est l'amour qui transforme tout. Et qui met cette modalité particulière d'une obéissance de fils bien-aimé.
Pendant la retraite, vous avez précisé les différentes sortes d'obéissance spirituelle, avec le père spirituel, le père maître et par rapport au frère. Est-ce que vous pouvez. Vous aviez dit que l'obéissance par rapport au père maître se faisait surtout par rapport aux luttes.
Par rapport aux.
Aux luttes.
Oui.
Et
oui,
est-ce que c'est pas une. Il n'y a pas aussi une.
Attention, oui. Bon, j'avais parlé. Auquel faut tout le reste tout le temps venir à ça. Spirituel. On le choisit entre 10 000, dit la grande sainte Thérèse. Je dis pas que vous voir 10 000 prêtres avant de choisir, tu vois. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que c'est quelqu'un que l'Esprit Saint nous fait choisir au plus intime de notre cœur. On choisit un père. Et la paternité spirituelle joue en premier lieu vis-à-vis de l'action de l'Esprit Saint sur nous. Saint Thomas n'hésite pas de dire que l'Esprit Saint est directeur, et rector. L'unique directeur spirituel, l'unique recteur spirituel, c'est l'Esprit Saint. Et le Père spirituel est instrument de l'Esprit Saint. Et c'est nous qui le choisissons. On ne vous l'impose pas. On ne peut pas imposer à quelqu'un, voilà ton père spirituel. On a un père spirituel. Alors quand on entre en vie religieuse, on demande au noviciat de se soumettre au père maître normalement. au noviciat, si jamais il y a un gros problème de vocation, alors à ce moment-là, vous pouvez m'écrire, ou bien vous pouvez m'appeler, je viendrai. Mais autrement, le permettre est là pour les mœurs religieuses, vous voyez, les mœurs religieuses de la vie commune, de notre manière particulière de vivre en vie religieuse, pour nous aider à entrer à fond dans la vie religieuse. Tout, on dit autant que possible, j'ai dit autant que possible, il y a une ouverture du cœur là-bas à l'égard du permettre. C'est pas obligatoire, l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, elle doit être en face de Dieu, en face du Christ et de Marie. L'ouverture du cœur, elle doit être à l'égard de son Père spirituel. Si on a choisi le permettre comme Père spirituel, ce qui est très bien, ben, très bien, l'ouverture du cœur se fait automatiquement. Mais faisons attention, j'ai vu plus d'une fois des personnes qui disaient « Mais c'est très gênant, j'ai rien à dire, donc je peux pas ouvrir mon cœur, c'est pas vrai du tout. » L'ouverture du cœur regarde les tentations qu'on peut avoir, et puis les désirs, notre cœur, on n'a rien à dire. Mais oui, très bien, on dit les désirs profonds de son cœur. Quelquefois, on n'a rien de spécial à dire, c'est simple, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple que la vie religieuse, parce que tout est déterminé. Depuis le matin levé jusqu'au soir, tout est déterminé. Alors, si vous faites ça dans la lutte, vous direz, je le fais dans la lutte. Si vous faites ça dans la totale obscurité, je ne vois plus rien, je suis dans l'obscurité. Si vous dites, c'est lumineux, c'est merveilleux, c'est lumineux, je suis presque déjà au ciel. C'est très bien, mais c'est très vite fait. C'est très vite fait, il ne faut pas se compliquer, il ne faut pas tomber dans un psychologisme, on se raconte tout le temps. Surtout pas, on se purifie de tout ça. On entre dans une simplicité du cœur et de l'intelligence. Oui. Mais, encore une fois, le noviciat terminé, mais on peut demander au Père Maître de continuer d'être le Père spirituel. C'est très vrai. On peut demander à quelqu'un d'autre d'être Père spirituel, autant que possible, à un Père de l'Ordre, ou on peut reprendre son premier directeur spirituel. Si, de fait, il comprend bien et suffisamment ce que c'est que la vie religieuse, s'il est religieux, et la vie Saint-Jean, on conseille de ne pas prendre quelqu'un qui serait en sept contrats vis-à-vis de la Saint-Jean. Ce serait pas commode. Alors on le conseille, mais ça peut se faire. C'est pas impossible. Là, vous voyez, on éduque dans l'ordre moral. On est instrument dans l'ordre de la vie théologale. On est instrument de Dieu. On est là pour montrer qu'il faut éviter telle difficulté. On est instrument de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre de la foi, d'espérance et d'amour. Sous l'influence des dons du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint, directeur et traiteur. J'aime beaucoup cette expression de saint Thomas. C'est dans le contrat Gentiles. Je ne dis plus dans la somme, mais ça n'a pas d'importance. Il ne le contredit pas. Directeur et traiteur, c'est lui. Et on doit tendre vers ça et demander constamment au Saint-Esprit de nous diriger et de nous éclairer. Demander ça constamment au Saint-Esprit. Et alors, pour être sûr d'être docile, mais on demande à quelqu'un qu'on considère comme son père spirituel, hein, de nous aider. Donc vous voyez, le rôle du Père Maître est premièrement le point de vue de l'éducation à la vie religieuse, ce qui implique du fort interne et du fort externe. Mais il peut y avoir au-delà de cela l'aspect de la vie contemplative. Et au-delà de la charité fraternelle exercée dans le couvent, capacité de charité fraternelle de quelqu'un qui n'est plus là immédiatement auprès de nous, bien qu'il est plus lointain. Vous voyez ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, sur ce que nous voulons voir? l'obéissance, on le verra mieux quand on analysera en éthique l'activité humaine. Et on verra sur quel point l'obéissance peut jouer. Parce que je ne peux pas aimer pour mon voisin. Et je ne peux pas commander à quelqu'un d'aimer. Le premier amour est toujours personnel. Mais il peut être soumis à la mort, il peut être soumis à l'obéissance, de savoir si on l'accepte ou si on s'en détourne pour telle ou telle raison. Et là, il y a matière à obéissance. Ça, c'est sûr. Je parle du premier amour dont on avait vu l'autre jour. Qu'est-ce que c'est que ce premier amour, ça, à l'égard du bien? L'obéissance intervient dans l'acte humain par rapport à ce que nous appelons l'imperium. C'est difficile à traduire. Le commandement, l'ordre, fais ceci. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris une résolution de retraite et vous l'appliquez le soir même. Tu feras ça. C'est exactement le fac hoc en latin. Fais ceci. Fac hoc. Fais ceci. Donc, l'obéissance qui nous met, on n'obéit qu'à ceux qui ont autorité. N'obéissez pas au démon. Le démon a un grand pouvoir. Il n'a pas d'autorité. Aucune autorité sur vous. C'est pour ça qu'on subit le pouvoir du démon. Et on ne l'obéit pas. Vous n'obéissez qu'à ceux qui ont autorité sur vous. Et dans la mesure où ils ont autorité sur vous, au sens strict, je n'obéis pas au démon. Il a un grand pouvoir, mais aucune autorité. L'autorité consiste à pouvoir exprimer un ordre qui est de fait un petit imperium. Fais ceci. Aujourd'hui, tu feras ceci à 5h30. Fais ceci. Désirer faire que facilement si on ne fait pas grande attention. Quand vous recevez l'ordre du supérieur, si facilement, vous dire ah, mais non, je devais faire ceci, c'est impossible pour moi. On fait ça constamment. On n'aime pas très bien de suivre un ordre supérieur parce qu'on avait son organisation propre. Alors ça, ça change tout. C'est le chien au milieu d'un jeu de quilles. C'est l'ordre du supérieur. Si vous êtes très sain, S-A-I-N-T, si vous êtes très sain, vous direz, mais ma journée ne m'appartient pas, j'ai fait des vœux. Que je fasse la cuisine, que je fasse des thèmes, que je fasse du balayage, ça n'a aucune importance. Tout est brûlé, tout est donné à Dieu. Évidemment, c'est un peu plus dur quand ça arrive au moment où je devrais préparer un sermon, où je devrais préparer une dissertation, où j'ai reçu l'ordre d'être extrêmement exact. Si j'ai suffisamment de vertu et d'obéissance, ça ne fait pas de problème. Vous pouvez m'en servir très bien. Prends l'ordre du supérieur. C'est une sorte de greffe. Hein. Vous voyez bien ? Greffe dans l'ordre pratique. C'est ça qu'on regarde et puis on dit que c'est... Mais bon, ça nous semble curieux. Le supérieur donne des choses un peu curieusement. Si c'est vraiment contraire aux exigences de la morale, on dit ah, partout. Si c'est pas immédiatement au contraire, mais ça semble contraire aux constitutions. Ah, là, on peut faire la remarque tout de suite. Si au contraire, c'est plus difficile encore, contraire à ce qui semblerait bon d'être fait, mais pas plus. On n'a pas à confronter ce que nous avons découvert et ce que nous demande le supérieur, on a à obéir. Même si ça nous contrarie beaucoup, on a à obéir et on obéit. Quitte à revenir après sur cette décision, mais elle est bien terminée puisqu'on a obéi. Donc, il y a eu un petit échange. Notre impérium a été supprimé, un missile supérieur. Ça peut être très sanglant, ça. Ça peut être très dur à porter. Comme ça peut être facile, avec la grâce de Dieu. Mais ça peut être très dur. Quelquefois, c'est très dur. On est bien heureux d'avoir pu porter, durant sa vie religieuse, quelques actes un peu héroïques d'obéissance. Donc, si ça vous tombe sur la tête, soyez joyeux. De pouvoir faire un acte héroïque d'obéissance. Vous n'en ferez pas tellement dans la vie. Mais si ça vous arrive, tant mieux. Et alors à ce moment-là, il faut prier pour ne pas jamais. Pour être vraiment là. L'obéissance demande beaucoup de réflexion avant que l'ordre vous soit donné. Est-ce que vous réfléchissez sur les diverses autorités que vous pouvez changer du reste hein. Quelquefois, c'est inamovible pour 3 ans, 6 ans. Bon. Mais quand on a reçu l'ordre, la qualité de l'obéissance, c'est la promptitude. On ne discute plus quand il n'y a plus à discuter. Et on fait immédiatement. L'exécution le mieux possible, avec dans son cœur, au plus intime de nous, le secret du supérieur qui nous l'a communiqué, son ordre, et on le prend au plus intime de nous-mêmes pour y répondre avec le plus d'intelligence possible. voyez, l'intelligence intervient pour comprendre l'intention du supérieur. L'intelligence intervient pour être sûr qu'il a autorité. Après, non. C'est de l'ordre beaucoup plus affectif, puisqu'il s'agit de choisir un moyen. La puissance porte sur les moyens. Il s'agit de choisir comme un moyen particulier qui nous est donné. Et qu'on choisit alors avec promptitude. L'exécution doit se faire avec promptitude. Ça, c'est la qualité de l'obéissance.